Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière heure avec Christophe Cessieux, avec Charlotte Lorgeret, avec Denis Charvet, Marion Bartoli. Vous pouvez retrouver les deux premières heures en podcast évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement dans un instant. Sur le buzzer, est-ce qu'on peut marquer son sport sans gagner? Tiens, alors que Gaël Monfils pour sa dernière saison sur le circuit a été célébré comme il se doit à l'Open d'Australie, lui qui est surtout un showman, il a gagné les titres en simple hein, mais pas en grand chelem notamment, il a marqué. Tiens justement le tennis, rapidement Eric Salio, Novak Djokovic sur le court en ce moment. Petite alerte pour Novak.
Alors, double alerte, parce que dans un premier temps, il a frôlé la disqualification en balançant une balle avec une violence inouïe. C'est passé à un mètre d'un ramasseur. Et l'arbitre lui a dit, écoute, mon petit gars, la prochaine fois, c'est carton rouge. Et puis, il y a quelques minutes,
je suis pas sûr qu'il lui a dit mon petit gars, mais vas-y.
Il a chuté. Et donc, il bénéficie d'un traitement médical au niveau de la cheville droite.
Aïe.
Alors, je rappelle qu'il mène 2-7-0, mm-hmm. mais il y a quand même une certaine nervosité donc chez le Serbe face à Botic Van de Sandschoup.
Comment il lui a dit dans le
milieu, si je peux préciser. Non, mais si je peux préciser, c'est pas la cheville, c'est sous le pied, il a des ampoules.
Ah,
c'est pas la cheville.
Ça n'a rien à voir avec la chute, Marion ? Parce que j'ai l'impression que la cheville a tourné un peu.
Non, effectivement, mais le strap est sur le pied, pas sur la cheville.
Le strap est sous le pied.
Mario, précision.
En fait, j'étais à la cantine, donc j'avais pas tout vu.
Là, quand même, il faut faire confiance à
Marion. Marion, t'es injouable. T'es là, tu marches dessus. En fait,
tu racontes que Marion, elle n'est pas sur place.
C'est parce que j'ai titillé sur Sabine Olisicki. C'est pour ça.
Allez, on suit ça évidemment. Je rappelle qu'en fin d'émission, vous pouvez participer au jeu du sport. Aujourd'hui, vous pouvez remporter 200 euros de bons cadeaux à valoir sur le site levantalafrançaise.com pour trouver des bracelets ajustables, personnalisables, confectionnés à la main. En France, pour remporter votre bon de 200 euros, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez jeu JEU au 7-32-16. JEU au 7-32-16. On va ouvrir la porte du vestiaire dans quelques instants, les amis. Mais vous savez qu'il y a un événement aujourd'hui à 11h30. C'est la mythique descente de Kitzbühel en Autriche. Et on va y aller justement tout de suite là-bas parce qu'on a un invité exceptionnel qui nous rejoint dans cette avant-course. Et on remercie Léna Marjac de nous aider à l'avoir avec nous. C'est Cyprien Sarrazin qui est avec nous. Salut Cyprien.
Salut à tous.
Salut.
On est ravis de t'avoir. On rappelle Cyprien, double vainqueur de la descente à Kitzbühel il y a 2 ans. Déjà ça pète un peu la classe quand même. Hein, voilà.
Déjà ça envoie.
On va le dire. Voilà. Ah. Et il récupère encore de sa chute fin 2024. Mais voilà, tu fais pas la course aujourd'hui, mais t'es sur place pour la première fois, je crois. T'es allé sur la Strive cette semaine. Hein, c'est le nom de cette piste mythique, Cyprien. Raconte-nous un peu ce que ça fait de retourner sur cette piste. Il y a de l'émotion.
Ah ouais, j'ai lâché ma petite larme quand j'étais au départ de la reconnaissance du deuxième jour. Je passais les bâtons derrière le portillon. J'étais dans la cabane de départ, il n'y avait pas un bruit. Et là, ouais, là, il y a tout qui est remonté. Voilà, c'est beau d'être de retour, même de l'autre côté. Même si je ne cours pas, c'est toujours incroyable. Il y a une atmosphère ici et c'était très touchant de voir aussi de retrouver mes amis aussi et je suis là pour les supporter
et d'avoir une cabine avec ton nom dessus en plus hein, parce que c'est la tradition à Kitzbühel, un vainqueur de la Strive a son nom sur une cabine ou deux.
Est-ce que tu as pris ta cabine?
Ouais.
T'as pris ta cabine?
Ouais, j'ai pris ma cabine. Ouais.
C'est beau. Bon, c'est une fierté forcément là, j'imagine qu'en plus on doit être reçu comme un roi hein. On rappelle, tu disais, pour le grand public qui ne sait pas, le Kitzbühel c'est 80 000 personnes dans la raquette d'arrivée. C'est un stade énorme. De France. Un stade de France dans la raquette d'arrivée. Cyprien, là, t'es reçu comme un roi?
Ah, c'est incroyable. Vraiment un roi, ouais. Exactement. C'est ça. Les émotions que j'ai vécues quand j'ai gagné, elles étaient folles. Et là, tout me supporte même dans ma reconstruction. Et ça a pas de prix. Quoi.
Là, aujourd'hui, t'aurais envie d'y aller ou non? Ou c'est un peu loin?
Ah bah là, ça doit donner envie, ouais.
Non, bien sûr, les émotions me donnent envie d'aller. J'ai envie d'aller retrouver ces émotions-là, mais en ce moment, je ne me sens pas capable de prendre le départ. Du coup, je ne me suis pas projeté à me dire ah ouais, là, j'ai envie de skier. ça reste un truc extrême. Et quand on est athlète, quand on court, on ne se rend pas compte de tout ça. On ne prend pas un peu de, on prend pas de recul, il faut pas d'ailleurs. Mmh. Il faut rester dans notre bulle, mais quand on prend un recul comme là, je suis en train de le prendre, là, c'est vraiment impressionnant. Même en l'ayant fait, je suis toujours là, je suis sur le cul quoi.
Ah ben tu réalises encore plus en fait justement en prenant un peu de recul.
Je suis dingue.
Mario, tu voulais me poser une question à Cyprien.
Oui, Cyprien, donc bien évidemment, cette descente-là est reconnue comme la plus difficile, la plus dangereuse. Je crois qu'il y a quatre passages en particulier qui sont extrêmement redoutés. Vous avez des pentes jusqu'à 85%, oh bah oui. Des sauts qui peuvent atteindre 80 mètres. Est-ce que quand tu l'as préparé, il y avait une espèce de préparation supplémentaire par rapport à ces quatre difficultés en plus, la reconnaissance, comment ça se passait dans ta préparation pour arriver à la gagner, comme Georges l'a dit deux fois?
Non, j'ai pas cherché à m'entraîner plus que ça sur ces secteurs. J'étais dans le flow en fait. Et depuis quelques semaines avant ma victoire ici, j'avais déjà ces sensations, voilà, le truc, l'état de flow qui est difficilement explicable. Et ça avait attaqué à Bormio quand j'avais gagné à Bormio ma première descente. Après Wengen, c'était très très bien passé aussi. Donc j'étais bien, j'étais confiant. J'avais pas de stress, je me faisais confiance, je connaissais la piste que de l'année d'avant. Du coup, j'avais pas non plus trop d'expérience sur cette piste. Mais en laissant parler l'instinct, j'ai réussi à la maîtriser, cette piste, on va dire, et à me faire plaisir et à proposer cette performance.
Christophe, il y a une légende, je sais pas si elle est vraie, Cyprien, d'une petite phrase que diraient les anciens aux rookies qui arrivent à Kitzbühel. Il leur dirait, c'est pas la peine de défaire ta valise, ce sera plus facile pour nous, comme ça, pour te l'amener à l'hôpital. Est-ce que tu l'as déjà entendu, cette histoire, ou c'est du pipeau?
Ah, bien sûr, je l'ai entendu, mais on me l'a jamais dit. On me l'a jamais dit, mais je l'ai entendu. Avant même de faire Kitzbühel, je savais déjà qu'on disait ça.
Surtout le truc important à parler de la cabine, c'est qu'aussi le vainqueur, après, passe derrière le bar au long de l'honneur. Il fait la tournée pour tout le monde.
Ça, c'est le plus important.
Mais ça, on peut pas tout dire. Attends, Cyprien, juste un dernier mot. On est à la radio. Les auditeurs et auditrices qui nous écoutent boivent tes paroles et veulent savoir. Je sais que vous êtes beaucoup dans la visualisation avant de vous lancer dans une descente. On ferme les yeux, tu nous racontes la strife. Qu'est-ce qu'on voit au départ?
Là, on ferme les yeux, on est dans la cabane de départ, il n'y a pas un bruit, personne parle. Il n'y a que des claquements de ski par terre pour s'énerver un petit peu. Moi, je ne m'énervais pas, j'essayais au contraire de me calmer au maximum. Son technicien, son préparateur, moi c'était mon physio qui était là aussi. Voilà, on leur fait confiance, on leur check un dernier coup, c'est un regard, il n'y a pas de parole, c'est juste un regard. On passe les bâtonnets à le portillon, on est seul au monde. Et c'est à nous de jouer, même s'il y a toute une team qui est derrière nous, là on est seul au départ et la vision du départ, il faut aller sur place pour s'en rendre compte, c'est indescriptible. J'ai beau tout vous raconter, vous n'arriverez jamais à vous imaginer, mais c'est une pente vertigineuse, c'est un trou, on part dans un trou et là c'est parti, le premier.
Ça s'appelle la virage, souricière, c'est ça?
C'est l'Osberg, la Mosefalle, et voilà, et après ça s'enchaîne. Ouais. Après, on arrive dans la portion la plus technique qui est le Steilang, là où j'ai inventé la nouvelle ligne, on va dire. où j'ai fait la différence sur les 25 premières secondes, et voilà, ça, c'est un truc où on respire quasiment pas, voilà, c'est hyper intense, et on arrive sur un long plat ensuite qui fait 15-20 secondes le plat et c'est vraiment très 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 plat, donc là il n'y a plus rien à faire si ce n'est essayer de récupérer au maximum. Et là j'avais fait un petit bilan en disant ok, le job je l'ai déjà fait, je pense que tu as gagné en haut, maintenant arrive en bas souple, sans prendre de
risque. Il faut préciser que tu te disais ça à plusieurs centaines de kilomètres heure.
C'était à 115
km/h. À 115 tu dis ouais, je suis pas mal.
Et après, ça s'enchaîne et c'est des mouvements incroyables. La piste, elle est magnifique. Il y a tout dans cette piste. Et le flow, voilà, j'avais le flow, donc je me suis régalé. J'ai profité de chaque moment de la piste jusqu'à arriver à l'Osberg. Je me suis trompé tout à l'heure, mais l'Osberg, elle est en bas avant le grand dévers, là où on voit les 80 000 personnes qui nous regardent.
Tu la vois, la foule?
Non, on les voit pas. On les voit pas et on les entend pas. Ouais. Là, on est à vers 120, 130 km/h, donc il y a trop de bruit dans les oreilles.
T'as d'autres trucs à penser. Ouais.
Et après, le dernier dévers, il est hyper impressionnant. Et quand j'ai passé ce dévers, la grande ligne droite après, là, j'ai pensé, je me suis autorisé à penser à ma célébration parce que je sentais que j'avais fait quelque chose de pas mal et là c'était fou parce que j'étais à 145 km/h Et puis derrière, c'est la ligne d'arrivée.
Dans le ciel chousse.
Ouais. Tu sais quoi, tu m'as donné envie d'y aller.
Ah ouais. Allez.
Vas-y, on se retrouve, au départ l'année prochaine.
Denis, moi j'ai eu la chance d'aller en reportage et d'aller dans la cabine de départ. Moi aussi je voulais y aller. Ouais. J'ai regardé le trou noir.
T'as eu peur.
La neige, elle est bleue tellement elle est glacée. Ah oui. Tu tiens pas sur l'écart. Et je me suis dit, je vais descendre finalement par le télécabine. Ce sera plus simple.
C'est mieux.
Le mot de la fin, juste, comment ça va? Dans le vestiaire, dans quelques instants, on va parler de comment gérer la frustration dans le sport de haut niveau. Ça va sur ça, sur le temps que ça prend, sur la reconstruction?
Ouais. C'est déjà un miracle que je sois là avec toutes mes capacités physiques, mentales. Donc, je veux donner que du positif sur mon état. Et je suis heureux dans ma vie et c'est ça le plus important. Après, voilà, ça prend du temps, mais finalement, c'est mes genoux qui prennent plus de temps. Finalement, toutes les séquelles que j'ai pu avoir au niveau de la tête, je les ai récupérées très, très, très vite. Donc, voilà, du positif et je suis pas frustré parce que j'ai l'habitude de me blesser et j'ai appris à pas vouloir aller trop vite. Et quand je me sentirai prêt, je serai de retour, mais pas avant.
Et bien, on va en parler dans quelques instants. Je l'ai pas. Entre sportifs,
on a hâte de te retrouver. Ouais,
top de t'avoir, Cyprien. Ouais. Bravo. Profite de ta journée de roi.
Bravo pour tout.
Le roi de Choisy, s'il est là.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Choisy.
Ah ouais, avec plaisir.
Et quand tu vas le voir, tu lui dis I'll be back. Je reviendrai. Allez, merci les amis, départ de la descente de Kitzbühel à 11h30 dans un instant. On a décalé un petit peu le programme les amis parce qu'on avait Cyprien Sarrazin et c'est un invité exceptionnel. Un dernier mot, Eric Salio, Novak Djokovic à l'Open d'Australie, il en est où?
2-7-0 pour le Serbe, 6-3, 6-4 et Van de Sandschoop mène 3 jeux à 2. Novak Djokovic vient d'effacer le break de retard, mais il est très nerveux. J'ai revu l'image où il a failli être disqualifié. C'était assez violent et ça rappelait sa disqualification à l'US Open face à Karel Augusta.
Ok, on continue de suivre ça pour Djoko dans un instant. Allez, bah du coup, on va ouvrir la porte du vestiaire un petit peu plus tard pour savoir comment gérer la frustration. Vous avez entendu Cyprien Sarrazin, il vous a donné quelques possibilités de réflexion. Allez, à tout de suite sur RMC.
Le vestiaire des GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Mario Bartoli, avec Charlotte Langeret, notre invité aujourd'hui, avec Christophe Cessieu, avec Denis Charvet. On vient de passer un super moment avec Cyprien Sarrazin, double vainqueur à Kitzbühel.
Qui est en train de vivre sa course.
Ouais, voilà, qui est en train de se reconstruire et qui nous a fait vivre effectivement ce qu'est une descente de Kitzbühel qui va débuter à 11h30. On est avec Léna Marjac sur place. Mais d'abord, eh bien, on va ouvrir la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a intéressé, c'est passé à l'Open d'Australie. La jeune française Elsa Jacquemot, 22 ans, est complètement sortie de son match au deuxième tour du tournoi, frustrée selon elle par la mauvaise tactique de son coach. Elle a complètement derrière perdu le fil de son match et elle a perdu en 2-7, 6-1, 6-2. Elle a même provoqué d'ailleurs le départ de son coach de la tribune, tellement elle était hors d'elle pendant la rencontre. On en a un peu parlé avec Cyprien Sarrazin il y a quelques instants et ses mots étaient intéressants. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Dans le sport de haut niveau, ça a forcément résonné aussi pour nos auditeurs et auditrices dans la vie de tous les jours. Comment on gère la frustration quand les choses ne sortent pas comme on le souhaite? Et on sait que pour vous, c'est déterminant évidemment où chaque chose compte. Denis, j'aimerais qu'on commence par toi. C'était un artiste sur les terrains de rugby en plus.
Cyprien Sarrazin nous dit qu'en fait, lui, il la gère bien. Donc c'est tant mieux, hein, je veux dire, c'est courageux. Et il a cette force-là. Après, il y a des moments dans ta carrière où, alors nous, je viens d'un sport collectif où t'es très dépendant quand même des autres, hein, forcément. Mais il y a des moments où tu perds ton jeu, quoi, tout simplement. Ce qui fait que, ben, parfois tu fais des différences et tout d'un coup t'as pas la même vision, t'as pas la même timing, tu dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, t'es au même niveau physique, mais tu te dis les sensations sont pas là. Et c'est très curieux parce que ça peut durer un petit moment, ça dure pas éternellement, mais ça peut durer sur 2-3 matchs et tu te dis mais où est passé mon rugby, quoi, en gros.
Et tu comprends pas.
Et tu comprends pas parce que tu l'analyses, t'as du mal à l'analyser en fait. Et même si aujourd'hui je sais que c'est très dépendant aussi des autres, il y a des moments mais tu t'y retrouves pas, tu sais pas pourquoi et tu perds ce qui fait ta force et ce qui est très bizarre c'est qu'un jour mais tu retrouves les sensations, tu refais un bon match, un très bon match et tu te dis mais pourquoi? Et en fait, tu te dis, voilà, et ça revient, et tout revient dans l'ordre, mais c'est très curieux.
Et t'es pas forcément accompagné en plus.
À l'époque.
Toi, tu parlais avec tes coachs?
Non, très peu.
Pourquoi?
Très peu.
Vous parlez pas entre vous, les garçons.
Non, mais
c'est intéressant ce que dit Charlotte.
En rugby, non, mais c'est vrai qu'on n'échangeait pas forcément beaucoup. Alors,
surtout à ton époque, c'était quoi? C'était.
On n'était pas dans l'analyse comme aujourd'hui.
Il ne faut pas montrer ses faiblesses.
Ben en rugby, non. En rugby, c'est un sport où tu montres. C'est très tabou, en fait. À l'époque, c'était très tabou. Maintenant, ça devient un peu moins parce que il y a des joueurs qui parlent de leur dépression, leurs difficultés.
Milieu très viril, surtout à ton époque.
Il y a beaucoup de virilité. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est à l'époque, c'était tabou d'en parler, si t'étais pas bien, si tu traversais.
Mais en même temps. Et donc, tu t'enfermais dans ta frustration.
En même temps,
tout
la
seul.
Frustration, elle vient souvent de l'environnement aussi. Ouais. De ta vie privée. C'est pas que le sportif, c'est le joueur aussi. Enfin, je veux dire, c'est l'homme qui traverse des moments peut-être difficiles dans la vie, mais on n'explique pas trop et c'est dommage. Je pense qu'à l'époque on devrait s'ouvrir davantage pour partager ces moments où mais t'as plus de doutes, t'es plus angoissé, sûrement pour des raisons extérieures aussi.
Pour rester dans les sports co, comment on gère la frustration, Charlotte, joueuse de foot, comment tu gères la frustration? Tu gardes tout pour toi?
Non. Moi, j'étais quelqu'un de très expressif du visage, surtout pas forcément dans les mots, mais quand j'avais un regard, voilà, très très pesant, si j'étais pas contente. Mais je pense que c'est le temps, c'est apprendre avec le temps à gérer ses frustrations. Moi, j'étais très frustrée de l'injustice. J'en parlais beaucoup tout à l'heure, donc par rapport aux entraîneurs, par rapport à tout ça, l'injustice par rapport à mes coéquipières, tout ça. Moi, j'ai jamais été vraiment trop frustrée de mes performances. J'étais une joueuse très très régulière, défenseur centrale, où j'essayais d'être vraiment très régulière, d'être performante. Mais ouais, non, moi j'ai eu des gros soucis avec certains entraîneurs où pour moi ils étaient pas justes et ils ont perdu toute crédibilité à mes yeux. Et par contre, je me suis renfermée à moi-même. Et ça, c'était la première fois. Mais deux,
c'est-à-dire que tu gardes ta frustration surtout en toi, quoi.
Ouais, en fait, ça a fait un déclic un jour à un entraînement. C'était le moment où j'avais perdu mon brassard, où je trouvais ça injuste parce qu'on était tous dans le même bateau. Je pense, et pour moi, c'était pas juste de faire ça. À la fin d'un entraînement, je pleurais et je savais pas pourquoi je pleurais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est la première fois que je craque sans savoir ce qui s'était passé et pourquoi. Parce que c'est que du foot, c'est que du sport. Je vivais de ma passion, j'étais professionnelle. Donc non, je pleurais.
Mais tu l'avais partagé ça ou pas? Ou t'as pas...
J'étais partie de l'entraînement. À la fin, je pleurais. Et on a eu heureusement 3 jours de récup. J'étais partie un peu me ressourcer et pleurer toute seule dans la voiture. Tout ça, ça m'est arrivé les 2 dernières années de ma carrière, alors que j'avais 27, 28 ans. Toute ma jeunesse, j'ai jamais eu trop de soucis avec les entraîneurs ou avec mes coéquipières. Donc je me suis recentrée sur moi-même, je me suis enlevée cette passion du foot. Pour moi, c'était plus une passion, c'était un travail. Et c'est là que je me suis dit, c'est un peu grave quand même, parce que si maintenant t'as plus la passion, que tu perdes ou que tu gagnes, moi j'étais dans cet état.
C'est-à-dire que pour gérer tes émotions négatives, tu t'es un peu dissociée, ouais, quoi.
Je me
finalement.
Suis dit, je peux rien faire. De toute façon, c'est pas moi qui ai les clés du truc, c'est pas moi le coach, c'est pas moi qui prends les décisions. C'est comme ça. J'espère que ça va aller pour le mieux avec le groupe. Donc je me suis recentrée sur moi-même, alors que moi j'avais l'habitude d'être avec mes coéquipières, avec tout le monde, très souriant, très jovial, et etc. Et là, je me suis renfermée sur moi-même pendant quoi, 3-4 semaines. Je broyais du noir, je parlais à plus personne, et ça a été très très compliqué.
Mais
pour moi.
Mais t'aurais eu besoin à l'époque de quelqu'un, d'une interface pour t'aider?
J'étais toute seule. C'est parce que en fait, si c'était
t'as pas été voir un psy ou
non,
t'as pas mis un psy.
Non, mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si t'avais eu quelqu'un qui t'aurait accompagné, ça aurait été quand même un plus, ça aurait été un avantage.
Oh, tu parles pour toi aussi, Denis, là, j'ai l'impression.
Bien sûr, non,
mais il se confesse.
Non, mais bien sûr, c'est l'idée du vestiaire. Hein,
Mais évidemment.
Non, parce que dans ma tête, peut-être, hein, sûrement, mais dans ma tête, il y avait rien à faire. Donc pour moi, c'était la fin d'une relation avec un entraîneur et une joueuse. C'était de l'injustice totale et puis je me suis dit il faut quand même jouer pour les copines et puis aller à fond. Donc ouais, j'ai eu des expériences très compliquées en fin de carrière.
Mais c'est intéressant parce que là on est vraiment dans la psychologie des sportifs de haut niveau qui parfois s'enferment un peu. Dans les sports collectifs, c'est un peu différent par rapport au sport individuel. Marion, je m'en tourne vers toi, on est dans le vestiaire, comment gérer la frustration? Peut-être que tu ne te retrouves pas forcément dans les discours de Denis et de Charlotte, toi, sur
ta carrière. Je les entends complètement, et mon mari est ancien joueur de foot professionnel, et on a souvent ce genre de discussion où justement dans le foot, et ben t'es complètement tributaire d'un entraîneur ou même parfois d'un agent qui va être capable de placer dans un club ou pas d'ailleurs, et tu trouves qu'un autre joueur est moins bon que toi mais qu'il a la chance de pouvoir jouer dans un plus grand club parce qu'il a un meilleur agent, et donc il y a beaucoup de frustration.
Ouais, ça te bouffe de l'intérieur.
Extérieur. Ouais. Exactement. C'est vrai que la chance qu'on a dans le tennis, c'est que c'est le classement, et que si t'as le classement, ben tu joues tout simplement. Donc il y a pas déjà cette frustration de se sentir rejeté en fait par injustice. Donc j'entends complètement ce que Denis et Charlotte évoquent. Pour ma part, pour moi, les frustrations que j'avais, c'était en termes de niveau de jeu, où parfois je trouvais que j'avais pas un niveau de jeu qui était acceptable sur le terrain et que je devais faire mieux. Et pour moi, la seule manière que j'ai trouvé de le gérer, c'était de travailler plus. Et l'immense chance que j'ai eue, et d'ailleurs aujourd'hui en étant maman, je me rends compte à quel point mes parents et bien sûr mon papa mais aussi ma maman ont fait des sacrifices colossaux pour moi, pour m'accompagner dans tous les tournois du monde entier, pour mon père être avec moi tous les jours pour essayer de trouver des solutions pour améliorer mon tennis, pour améliorer ma préparation physique, pour m'aider en fait via le travail à rester dans quelque chose de cartésien. Et ayant un esprit très très cartésien, ça me convenait extrêmement bien. Donc je pense qu'il y a des psychologies qui sont différentes forcément et que chacun le gère
l'environnement
possible.
Tu parles de l'environnement et est essentiel dans tous les sports en fait. Puisque l'environnement, toi, c'est tes parents qui t'ont aidé. Il y a quand même un environnement favorable.
Je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, le papa de Marion était ton coach, hein, Marion. Donc,
oui, effectivement. Et médecin aussi, donc avec aussi quand même beaucoup de notions de psychologie. Et il savait qu'il y avait des moments où, alors, par exemple, après de grosses défaites, je pouvais m'enfermer dans une chambre d'hôtel pendant 3 jours et pas être capable de fonctionner. Donc, pas être capable de sortir du lit, pas être capable d'aller voir des gens dehors. Je faisais room service sur room service. Je restais 3 jours enfermé. Et il savait que pendant ces 3 jours-là, il ne fallait pas me parler parce que ce n'était pas la peine.
Mais c'est intéressant. Et toi, tu savais que tu avais besoin de ça pour le coup. Dans ta gestion de frustration, tu savais que tu devais passer par là.
Exactement. C'était comme une petite mort. Il fallait que je renaisse de cette petite mort pour ensuite me remettre au travail. Et par contre, quand je m'y remettais, je mettais les bouchées doubles. Et c'est pour ça que.
On a vu Elsa Jacquemot s'en prendre vertement à son coach l'autre jour.
Joueuse de tennis,
dans ce match. Est-ce que toi, il t'est arrivé comme ça de t'insulter avec ton père qui était aussi ton coach? Alors là, il avait une double, voire une triple casquette dans l'histoire. Comment ça se passait au quotidien? Parce que souvent, un joueur, une joueuse de tennis décharge sa frustration justement sur son coach. Mais quand c'est son père à la fois, c'est un peu plus dur, non?
Alors, lui vous dira que oui, moi je vous dirai que non. Donc on a forcément des visions différentes. Mais en revanche, là, ce qui m'a le plus choqué dans cette situation en particulier, c'est qu'elle s'en est permis. Enfin, Elsa s'est permise de parler extrêmement mal également à Lise Cornet. Et ça, mais alors de ma vie entière, les capitaines de Fed Cup qui sont venus me voir jouer, donc j'ai eu 2 capitaines, c'était Guy Forget et Amélie Mauresmo, mais jamais de ma vie j'aurais osé dire un mot envers Guy Forget et Amélie Mauresmo quand ils étaient assis dans mes box pour me voir jouer, parce que j'étais membre de l'équipe de France de Fed Cup. Donc ça, pour moi,
c'est
totalement...
Quoi, ta frustration, tu la règles avec toi-même?
Oui, tu la règles toi-même, mais pas, surtout pas ton capitaine de Fed Cup. Enfin, là, si t'as même, pardon, de Billie Jean King Cup, si t'as plus ce respect-là là, tu peux pas.
Surtout
là, tu peux pas, c'est pas possible.
Elle la paye pas.
Exactement. Elle paye coach, à la limite, un coach que tu payes, moi qui te paye. Tu es mon employé, parce que le joueur de tennis paye son coach. Donc, le coach est employé du joueur. Entre guillemets, tu m'as donné la mauvaise tactique. Je peux l'entendre. Mais là, tu peux pas hurler comme elle l'a fait sur la capitaine qui a rien à voir.
C'était surtout sur son entraîneur, hein, qui a quitté après le terrain.
Oui, mais elle était juste à côté.
Elle restait plus qu'à l'isée.
Exactement.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Je rappelle comment gérer la frustration. Je rappelle juste que dans un instant, il y a les jeux du sport. Inscrivez-vous en envoyant jeu, J-E-U au 7-32-16, J-E-U au 7-32-16 pour jouer avec les amis. Comment on gère la frustration? Marion disait que finalement, elle travaillait beaucoup sur elle s'enfermait dans le travail. Toi, Denis, t'avais des trucs pour essayer de passer à autre chose?
Des trucs, tu veux dire personnels ou
ouais, je sais pas, pour te reconnecter à...
Ah, j'avais du mal, moi. Mais alors, c'est marrant parce
c'est
que
l'alcool, Denis.
Ça, on peut pas le dire.
Une grosse méthode.
Non, pas
dans les GG Charlotte.
C'est pas l'alcool, mais je vois dans les années 90, le Stade Toulousain, on avait fait venir les présidents, le staff avait fait venir un psychologue. Et ce gars est venu donc a été présenté aux joueurs, mais personne n'allait le voir. C'était curieux parce que personne, il y avait quand même une, c'était très tabou à l'époque.
Ah bah à l'époque, oui.
Très novateur. Très novateur. Et moi, ce gars, je l'ai vu. Je suis le seul à aller le voir, de le voir, lui parler. Et ce mec, il comprenait pas pourquoi il était là, en gros. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui font appel à des psy, à des psychologues. Et je trouvais que c'était tellement novateur et visionnaire à l'époque.
Que... Non, mais même des psys, d'ailleurs, on fait appel à des psys, les préparateurs mentaux pour oui, être dans la visualisation, mentaux, parfois oui. aussi, être dans la visualisation des situations qui ne marchent pas pour essayer de trouver des clés, par exemple, pour faire les
Roger Federer avait vraiment un truc sur le terrain parce que lui, dans sa jeunesse, était très colérique. Il a eu beaucoup de problèmes de comportement. Il cassait des raquettes, il hurlait sur le terrain. Ses parents avaient honte de lui quand il faisait des tournois en Suisse. Et en fait, il avait trouvé un système. Il avait donc, on a toujours une serviette au bord du terrain. Et donc, il demandait la serviette où il allait prendre sa serviette. Il s'essuyait le front comme pour enlever le point qui venait de se dérouler. Et si vous observez bien pendant ces matchs, il allait à la serviette qu'après un mauvais point. Il le faisait jamais après un coup gagnant. Ouais.
Ça, c'était, donc, c'était son vraiment truc pour une
manière.
Pour...
Ouais. Voilà, exactement. Évacuer de manière instantanée ce qui vient de se passer de mauvais et passer au point suivant.
Mais attends, tu faisais ça, toi, Marion, quand tu étais sur le terrain. Un match, regarde.
Non, moi, tu sais bien ce que je faisais.
Tu tentes un amorti, ça passe pas. Derrière, tu dis, oh là là, la Corse qui remonte en elle et tout. Après. Non, mais comment t'es
évacué? Non, mais moi, tu sais ce que je faisais.
Qu'est-ce que tu
non,
faisais?
Moi, je faisais. Vas-y. Je refaisais à blanc le geste que j'avais raté.
Ma femme qui pète les plombs à chaque fois qu'elle joue au tennis. Marion, donne-moi des conseils.
Mais ça, c'est normal. Tu lui envoies mal la balle. Je t'ai toujours dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais tu faisais quoi pour évacuer ta frustration, Marion? C'est intéressant.
Je refaisais à vide le geste que je venais de rater. Donc, moyen.
Ben
oui, pour passer.
Ghost.
Voilà, exactement. Shadow. Alors, on appelle ça Shadow. C'est Sharapova. Sharapova le faisait beaucoup. Maintenant, t'as Osaka qui le fait. T'as Chantal qui le fait. Il y a beaucoup de filles qui se mettent à le faire. Mais en fait, il faut arriver à passer très vite à autre chose. T'as un point toutes les 20 secondes. Donc, si tu restes sur le point que t'as raté pendant 2 minutes, tu perds 2 jeux derrière. Donc, il faut arriver à passer très vite à autre chose. On n'a pas le temps de penser au point que tu viens de rater. Et pour arriver à passer à autre chose, il faut être dans l'action. Et l'action, c'est de refaire le mouvement que tu viens de rater. Et puis, tu
passes. Dans le sport collectif, c'est différent.
Non, mais ce que intérieurement aussi. Si Marion, quand tu rates un truc, t'as même une bouffée de colère qui vient en toi. T'en veux à tout le monde, t'en veux à toi évidemment, mais t'en veux à ton adversaire, t'en veux à l'arbitre, à tout ça. Comment t'arrives à faire retomber cette colère et arriver à te reconcentrer pour le point qui vient juste derrière?
Non, Marion,
c'est ça qui est
Marion, c'est
d'arriver
froid.
à revenir à son état initial. C'est ça qui me surprend et c'est ça l'avantage. Enfin, je veux dire, c'est ça qui fait
un sportif de haut niveau.
Parce que tous les sportifs du dimanche justement sont pris par les émotions. Alors que vous qui avez
vous êtes des mammifères différents.
Ouais. Vous êtes
mais regarde, Rafa n'a jamais vu péter un plomb.
Vous avez un sang froid.
Oui, Rafa, non.
Alors je suis très fière, j'ai jamais cassé une raquette de toute ma carrière. Depuis que j'ai mis une raquette dans les mains, 5 ans et demi jusqu'à maintenant. J'ai jamais cassé de raquette de ma vie. Mais je pense que ça dépend des personnalités de chacun, encore une fois. Effectivement, déjà, j'ai un self-control.
Ouais.
De base qui est assez élevé,
mais
si je vais m'en prendre à quelqu'un, c'est à moi-même. Donc c'est
Christophe
pour ça que je me
moyen.
Suis j'ai mal fait quelque chose, je le refais à vide pour essayer de mieux le faire la fois suivante. Mais je m'en suis jamais pris à l'adversaire, à l'arbitre, au bal, au vent, au soleil, à je sais pas quoi. Non, ça jamais.
Mais, non mais ça, c'est intéressant. Charlotte, je rappelle comment gérer la frustration. C'est même comment évacuer la frustration. Parce que non mais sur le terrain, sur le terrain, tu vas pas faire comme Marion, tu vas pas refaire un centre ou refaire une récupération de balle en fantôme. Non, comment tu te remets après avoir raté un geste? Tu rates une passe? Tu rates une intervention?
C'est vrai qu'en plus j'avais un poste de défenseur central, donc quand je loupais une passe, j'étais très frustrée. Mais
s'il y a but derrière, c'est ta faute.
Ouais, exactement. Oui. Ou alors c'était mon intention, c'est moi qui démarrais les actions, les attaques placées, etc. Si je faisais le mauvais choix, après il y avait de la répercussion. Donc non, je me disais juste c'était la bonne idée. C'est juste techniquement je l'ai pas bien réalisé, mais j'avais souvent de bonnes idées.
mais il n'y avait jamais de bouffée de colère, d'énervement.
Non, tu peux pas parce que autour de toi après. C'est différent le sport.
C'est en ça que vous êtes des gens
extraordinaires.
C'est en ça que vous êtes des gens extraordinaires.
On se regarde. Il y a les leaders. Moi, j'étais aussi une leader dans l'âme, donc je me ressens très vite.
Tu dois montrer l'exemple en plus.
Exactement. Si je pétais un plomb, il y avait tout le monde qui craquait, donc c'était pas possible. Donc j'essayais de me recentrer sur des choses qui comptaient vraiment. Si je me loupais sur des choses futiles, c'est pas grave parce que je sais que les bases je les ai et que après je vais retrouver le goût et le talent, on va dire. Mais je loupais pas trop de passes.
Moi, c'est la psychologie positive. difficile.
C'est vrai, oui. Moi, j'étais comme ça.
La visualisation aussi des choses positives avant les matchs. On parle de la frustration, mais aussi de bien se préparer. On visualise. Oui. Je pense que c'est dans tous les sports, des bons gestes, des bonnes passes, des bons choix pour se mettre en confiance et ensuite aborder.
Denis, tu faisais ça avant le match. Tu disais, oh là, je vais faire un cadrage débordement. Mon Dieu.
Non, tu disais pas ça. Tu en rêvais. Tu avais envie, mais le non, c'est la concentration, la détermination qui faisait que c'est vrai que c'était essentiel de bien se préparer psychologiquement dans un match.
Tu te préparais comment, toi ?
Pour revenir.
Mais c'est vrai, tu te préparais. Tu visualisais le match avant ?
Visualiser, non.
Des choses que tu voulais tenter ?
Oui, tu penses à des choses, oui, bien sûr. Tu penses à des gestes, tu essaies d'être dans. Je crois d'être très précis, en fait. Mais après, c'est vrai que nous, on est un sport collectif où parfois, tu manques une action déterminante.
Mais j'ai une question pour toi.
Et il y avait tellement de. Ça influe tellement sur le collectif, ce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des situations personnellement. C'est pas un sport individuel. C'est la différence entre Marion et nous. C'est que nous, on est tellement dépendants. À un moment donné, fais un mauvais geste.
Et puis, tu sens la culpabilité par rapport aux autres aussi. Oui. Marion.
J'ai une question pour Denis et Charlotte, parce que j'ai écouté un interview de Tom Brady, donc justement dans les sports collectifs, qui lui aussi est très leader dans son état d'esprit, qui a expliqué que pour arriver à très bien jouer les matchs du Super Bowl, qui bien évidemment sont les matchs les plus importants, c'est parce que tous les jours à l'entraînement, il mettait autant d'intensité que si c'était une finale du Super Bowl ou un match de Super Bowl, qu'il arrivait finalement le jour où c'était un match important à mettre cette intensité-là, parce que ça devenait tellement une routine. Est-ce que vous les préparez comme ça aussi, ce genre de match? Enfin, c'était votre préparation quotidienne aussi.
De toute façon, je vais te dire, tu te préparais mal, tu jouais mal. Toujours, on dit...
Ça dépend des gens.
L'entraînement, oui, mais c'est toujours important d'être déterminé, de reproduire en match ce que tu fais en entraînement. Moi, j'ai toujours été, par rapport à ça...
Je suis complètement d'accord, j'étais comme ça aussi, je mettais l'exigence, j'étais au max à l'entraînement, mais il y a des gens, il y a des joueurs ou des joueuses qui n'ont pas besoin de ça, qui ont envie d'être relâchés à l'entraînement pour se mettre dans leur bulle pendant les matchs, et je trouve ça mais incroyable, parce que moi, j'étais pas comme ça. Je comprends pas qu'aujourd'hui... Ouais, c'est rare, mais je vous jure, moi j'avais des coéquipières, elles étaient en claquettes chaussettes à l'entraînement.
Attendez, c'est pas si rare, hein. Bernard Hinault par exemple, on sait qu'il détestait s'entraîner, Marc Madieu nous le disait, il s'entraînait pas beaucoup et puis derrière il arrivait sur les courses et il écrasait tout le monde. Donc,
oui, mais après tu sais, il y a des faux semblants. Regarde Roger, on avait l'impression qu'il s'entraînait pas et qu'il faisait entre guillemets clown, mais les heures d'entraînement passées quand il n'y avait pas de caméra, mais c'est vrai, toute la perception générale c'est de dire Roger c'est le tennis, il est né avec un don surnaturel, il n'a pas besoin de faire d'efforts et tout est fait comme ça avec du génie. Mais les 5 heures d'entraînement, les 6 heures d'entraînement, quand il n'y avait aucune caméra et qu'il les faisait en préparation physique ou sur le terrain, il les a fait bien évidemment comme les autres pour arriver à avoir une telle maîtrise. Donc je pense qu'il y a aussi ce qu'on veut bien laisser paraître de l'extérieur et les heures quand même qui doivent être passées.
Voilà, comment gérer la frustration, je pense pas. Oh ben voilà. Je suis un peu frustré par avoir terminé ma phrase, mais.
Alors tu la gères comment ta frustration
Ta raquette. Allez, je visualise. Je vais réussir à bien avancer ce jeu.
Tu refais.
Alors attends. C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour PSG Newcastle le 28 janvier à 21h au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Je referme la porte du vestiaire. Vous avez été excellent. Christophe Cessieux a tout écrit pour. Pouvoir gérer sa frustration dans quelques instants au jeu du sport.
C'est pas la mienne, c'est la frustration de ma femme. Là.
Personne ne te croit.
S'il vous plaît.
Personne ne te croit.
Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il vous plaît, pour les jeux?
Non, tu vas perdre. On dit toi à l'antenne maintenant. Est-ce que je pourrais avoir un café? Est-ce que je pourrais.
Mais non, mais je suis désavantagé.
Mais t'as qu'à venir avec un stylo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Un cerveau qui fonctionne.
Pour noter les réponses. Très mal placé pour parler avec Christophe là-dessus. Allez, on revient dans un instant. On va jouer en fin d'émission. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec nos grandes gueules du sport aujourd'hui pour ouvrir cette semaine du sport féminin, on est avec une des voix de la Ligue 1 aujourd'hui. Charlotte Langeret est avec nous. Marion Bartoli est là, une super capitaine des GG. Ouais. Christophe Cessieux, Denis Charvet. On a du live à l'Open d'Australie avec Novak Djokovic en difficulté. Il mène 2-7-0, mais dans le troisième, c'est compliqué, Eric Salio.
Il est très très nerveux, Novak Djokovic, parce que Van de Sandschoup est menaçant. Il trouve qu'il y a trop de bruit sur la Rod Laver Arena, donc il mène 2-0. 6-5 Van de Sandschoup et Novak Djokovic qui vient de sauver 2 balles de 7. Puis surtout, il a pas envie que ça s'éternise parce que voilà, il a un âge assez avancé. Mais là, il y a danger. Il y a danger.
Je te propose un truc. Tu vas le voir, Novak Djokovic. Tu lui proposes le podcast du vestiaire à écouter, comment gérer la frustration, et peut-être qu'il va revenir dans sa rencontre. Après, s'il s'enferme pendant 3 jours comme le faisait Marion, on le reverra pas sur le terrain tout de suite. C'est ça qui est embêtant. Ouais. Allez, tout de suite les jeux.
RMC, les jeux du sport.
Mais non, Marion, elle revenait justement, elle ratait un point, non, et derrière.
Moi, je prends son palmarès, moi, j'ai rien à lui conseiller. Moi, je peux pas conseiller à quelqu'un qui quelque chose qui a gagné 24 grands chelems, je t'explique. Moi, je me tais.
Il a gagné Wimbledon, Djokovic ? Oui, oui, il a gagné.
Oui. Il a tout gagné. Allez. Cherche pas, il a tout gagné.
Le poids,
celle qui gagne tout, c'est Marion Bartoli aux jeux du sport, habituellement. Je vous rappelle que c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur. Je vous.
Non, mais là, tu nous mets filles contre garçons, on est d'accord.
Les équipes.
T'es obligé.
Ah, si tu veux. Hein.
Christophe Cessieux avec Charlotte Langeret.
Non. Marion, t'es avec
moi. Qu'est-ce que vous avez foutu
Mais moi, tu ne m'imposes rien, Marion. Tu m'imposes un Marconi Time, mais pas dans les grandes.
Marion, sois heureuse d'être avec moi quand même.
Et Denis Charlet,
oui,
Marion Bartoli.
Oui,
mon Denis. Ah, mon Denis, elle est forte quand même. Vous avez vu,
Charlotte,
quand
on retourne le truc. Mais bien sûr.
Je vous rappelle que Charlotte, écoute notamment, il y a une question impossible qui est activable par un seul joueur par émission.
J'adore.
Il est le seul à jouer sur la question impossible. Je t'explique, c'est une bonne réponse sur la question impossible qui est très dure. C'est 2 points. En revanche, si tu le plantes, c'est 1 point en moins pour ton équipe. Donc, si jamais tu es en difficulté, tu peux dire question impossible et on l'active. Et là, attention, il faut assumer derrière.
C'est 1 point en moins pour ton équipe.
Oh, mais il est incroyable, mec. Non, il a toujours pas compris les règles.
Ouais, quand même.
Il a activé l'autre jour en plus. Oh. Allez, on accueille les auditeurs, Cédric et Walid. Salut les amis.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Tiens Cédric, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Charvet, Bartoli ou Cessieux, Lorgeret.
Avec Marion et Denis.
Avec Marion et Denis, Cédric, Walid, tu es donc avec l'équipe Cessieux, Lorgeret. Je vous rappelle, vous pouvez gagner 200 euros de bons cadeaux à valoir sur le site levent-à-la-française.com pour gagner des bracelets, voilà, des bijoux confectionnés made in France. Allez, c'est parti les amis. Question à une seule réponse. Une seule réponse, les GG. Stan Wawrinka dispute la dernière année de sa carrière. Combien de titres du Grand Chelem a-t-il remporté ?
3
Marion.
Non, je veux
dire
non.
Non, parce que t'as dit 4 en premier, et c'est question avec une seule réponse. Ouais.
T'as dit 4.
Voilà, t'es mort.
Allez, hop. Non, mais ça commence. Non, tu dis 4. T'as dit 4. Comme moi.
J'adore parce que c'est dans ces moments-là où on voit que Marion était une tueuse sur le court.
Gère ta
frustration. T'es mort. T'es mort.
Jean, Christophe, gère ta frustration.
Regarde-moi. Je veux pas t'en faire, moi.
Allez, on enchaîne. Question à une seule réponse. Qui est le dernier Français à avoir gagné à Kitzbühel ?
Sarrazin.
Cyprien Sarrazin.
Je crois que c'est mon Noël. Mais oui.
Il n'est pas du tout.
Bravo, Denis.
Il est KO. Il est assis.
Question auditeur. C'est pour vous, Cédric et Walid. Vous donnez la réponse et ensuite votre prénom. C'est pour les auditeurs. Cédric et Walid, qui est leader de Ligue 1 ce matin ?
Lance, Cédric, Lance.
Non.
BG.
C'était question et seule réponse, c'était Paris, exactement. Leader provisoire. Aucun point pour vous deux.
Pas grave.
Question à une seule réponse. Question tennis.
C'est pour toi,
t'as qu'à faire du tennis.
Allez,
t'as qu'à faire que du tennis.
Mais écoute,
attends,
du ski, c'est toi. Tu vas au JO pour les skis.
Attends, il y a plein de questions, c'est dur.
Vous entendez ce qu'il a dit quand même. Il vient limite de t'insulter. Hein. Ouais. Préparateur mental pour Christophe Cessieux. La dernière fois, il a balancé un stylo sur la gueule de Julien Beneteau.
Je suis pas sûr qu'il reste jusqu'à la fin.
Question tennis, le plus proche l'emporte.
D'accord.
Combien de matchs ont remporté les tennismen français face au numéro 1 mondiaux depuis le début du 21e siècle? C'est-à-dire depuis 2000.
N'importe quoi.
En grand chelem. Combien de victoires face au numéro 1 mondial? Arrête, c'est terminé pour toi.
Pourquoi c'est
3, c'est une seule réponse. 9. Combien de victoires face au numéro 1 mondiaux? 9.
Impossible à trouver.
3.
6.
La réponse est 0. 48 défaites de
moi, suite. Moi, je voulais dire 0.
Donc
c'est
le point est pour Christophe Cessieux.
Incroyable. Je te promets, je voulais dire 0.
Oui, mais tu n'as pas dit que tu veux que je te dise.
Son gars, quand il bat Federer à Wimbledon, n'était pas 1. Ouais, bah d'accord.
Ça a été. Ah, oui. Question à une seule réponse. Question à une seule réponse.
Pourquoi une seule réponse?
Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est injuste, tu sais. Et il faut gérer sa frustration. Qui est leader de la phase de poule de Ligue des Champions?
Arsenal.
2-2.
Bien joué, ça.
Yes. Charlotte, là, il te porte pour ton
chapeau. Ah ouais, de ouf. Non, mais j'apprends, là, en fait.
Maintenant, il faut y aller. Deux partout. Question auditeur. Cédric et Walid, c'est pour vous. Votre réponse et votre prénom ensuite. Qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement?
Harry Kane, Cédric.
Lidvanski.
Aucun des deux. Et Lidvanski, non, c'est Kylian Mbappé avec 11 buts. 2-2. Question à élimination pour 2 points tout de suite. Ouais. J'explique pour Charlotte. Je vais vous demander quelque chose et chacun va répondre à tour de rôle. C'est un truc à liste, un peu comme un survivant. Une erreur et vous êtes éliminé. Citez-moi, s'il vous plaît, les amis, les championnes olympiques françaises d'été et d'hiver depuis les JO 2000 de Sydney. Les championnes olympiques françaises en individuel. Charlotte, une championne olympique française.
Laure Manaudou.
Depuis Sydney.
Laure Manaudou, depuis Sydney, exactement. Laure Manaudou, c'est bon. On passe à toi, Marion.
Pauline Ferrand-Prévot.
Pauline Ferrand-Prévot, c'est bon. Christophe Cessieux.
Camille Muffat.
Camille Muffat, c'est bon. Denis.
Flessel.
Laura Flessel.
Ah, Flessel.
La Guêpe.
Non, c'était avant.
C'était avant.
Ouais,
éliminé, Denis. Charlotte Langeret.
Mosley.
Estelle Mosley, bien sûr, en boxe. Marion.
Marie-Jo Pérec.
Avant 2000.
Avant.
Marion,
oh là
éliminé.
Là, l'erreur.
Christophe.
Manon Brunet. Manon Appetit-Brunet.
Manon Appetit-Brunet, c'est bon. 2 points pour l'équipe Cessieux Langeret.
La question, s'il vous plaît.
Question impossible pour Denis Charvet.
Ah, il faut sauver les meubles.
Attention, question impossible, s'il vous plaît. Ah, je veux le jingle. Je chante vraiment très bien.
Oui.
Vous êtes bonnet de 2 points, donc tu as l'occasion d'égaliser, sinon là vous vous mettez dans la sauce totale. Question impossible, rugby. Ah. Denis, tu es le seul à pouvoir jouer. En quelle année s'est déroulé le premier match officiel du 15 de France?
C'était même pas né, mon Denis, pourtant.
Ah ben j'espère.
En quelle année?
En quelle année?
1906.
C'est pas loin. Hein. 1906.
C'est pas loin.
Hein. Denis. C'est bon, ça.
Non. C'est magique, Denis.
Incroyable. Denis Charvet debout. La foule rentre dans le studio. La
ville est forte.
Comme un champion. 4 partout. Voilà. Attention.
4 partout match nul.
Et voilà. Incroyable.
Bien joué.
Incroyable. Les amis, je vous pose la question. Question à une seule réponse. Qui est le ballon d'or féminin actuellement?
Bonmati.
Aïtana Bonmati, Charlotte Langeret, 5-4.
Non, mais c'est incroyable.
Ah oui, t'as qu'à le donner aussi.
Question à une seule
On
réponse.
On a parlé de tennis avant.
L'Euro de hand se dispute actuellement. Qui est tenant du titre?
Le Danemark.
Non.
La Norvège.
Non.
La Hongrie.
Bah non, ça trop tard.
L'Espagne.
Toi aussi.
La France.
Marie-Bartoli.
Ah oui.
Dernière question.
Ah, match, alors. Balle de
dernière
match.
Question.
Ah oui, c'est
5-5. Question auditeur. C'est vous qui avez décidé. Cédric et Walid. Cédric et Walid. Quel basketteur français a été sélectionné au All-Star Game?
Oui,
c'est qui?
Cédric.
Cédric.
Non, il a pas dit bien. Non.
On a gagné.
Non, c'est pas validé.
Il y avait deux lettres de bronze.
Wembanyama. Voilà, non,
c'est
bon. Mais si, c'est bon. Allez, Walid. Mais bien c'est sûr que si, c'est bon. Charlotte est de mauvaise foi.
C'est pas bon.
Dernière question.
Dernière question, Marion.
Calmez-vous.
Dernière question pour toutes les GG.
D'accord.
Le plus proche l'emporte. Combien de Français étaient alignés à l'Open d'Australie, hommes et femmes?
18, Marion, 18.
16,
18.
21, 22, 23.
18,
13, 14.
Mais non, il faut donner un seul chiffre.
Mais tu comptes les qualifs ou pas?
Mais non,
parce que tu comptes les qualifs ou pas?
Non, le plus proche l'emporte. 19.
Qualif au tableau final?
Non, tableau final.
10 pour moi.
17.
18.
18.
C'est 14 17. Chez les hommes et 4 chez les femmes.
La plus proche est Marion Bartoli.
Ouais, 22 joueurs.
Attends, autant lui faire.
J'ai gagné.
Attends.
J'ai gagné.
Attendez.
Autant lui faire une passe décisive.
Booker. Maxime Abolin me dit que Charlotte a dit 19, donc c'est Charlotte qui est la plus proche. Victoire de l'équipe Lorgerie,
ouais, messieurs. Mais non, mais qu'est-ce que
mais c'est mais combien non, c'est 18.
Mais c'est combien?
C'est 22.
C'est 22.
Voilà. Voilà. Vamos.
Bravo. Walid, c'est toi qui remporte le bon de cadeau sur le site
lafrançaise.com. On est volé. Et Cédric, t'as pu dire NBA quand même.
Les jeux du sport sur RMC avec le vent à la française, créateur de bracelets mixtes intégralement confectionnés à la main en France. Rendez-vous sur leventalafrançaise.com.
Attendez.
Complètement volé.
Nouvelle VAR.
Oh non.
Maxime Abolin me dit, je viens de revérifier, c'est bien 18. Donc victoire de l'équipe partie.
J'ai gagné.
C'est ce jeu.
Je savais que j'avais gagné.
C'est comme le pénalty.
Ce jeu est minable.
C'est Cédric qui gagne. Mais non.
Les amis, je ne nous félicite pas.
Je vous félicite.
Maxime
Abolin, je porte une réserve directe.
Merci Charlotte Mangeret. C'était top de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bon match.
Bravo Cédric.
Le Havre Monaco. On va te suivre évidemment, consultant de Ligue 1 Plus. Merci Marion. Merci Christophe Denis Charvet. Tu restes avec moi dans les paris RMC. Calme-toi Marion. On se retrouve demain dans Bartoli Time, 19h30.